voilà. Nous voilà, nous, c'est l'équipe fidèle de Comaguerre sur Radio Galère le mardi à 14h. C'est-à-dire l'équipe fidèle. Je commence par Roselyne, qui est sous son casque et dans la cabine. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Voilà.
Roselyne, et toutes.
Voilà, et toutes. Et, oui. Et Habib, qui est là. Bonjour,
voilà,
Habib.
Voilà, bonjour. Voilà. Bonjour, Roselyne.
Et Bernard, et... voilà.
Non, mais j'ai regardé là-bas.
Bon, ça va. Alors, je commence par une petite nouvelle qui n'a pas d'importance et qui est en même temps extrêmement révélatrice. J'ai découvert, parce que ce n'était pas de ces derniers jours, que les États-Unis avaient décidé d'élargir leur domaine maritime de souveraineté d'1 million de kilomètres carrés. Un détail au passage, c'est-à-dire que ça se passe autour de l'Alaska, et c'est-à-dire avec cette étente unilatéral, je vais m'expliquer, de leur domaine maritime sur les océans, ils sont en train de prendre l'est de la Russie en étau. Hein. Bon. Alors, je reviens vers ça, mais c'est très intéressant parce que ça permet d'expliquer cette répartition des espaces maritimes entre les États est régie par une convention internationale qui s'appelle la Convention de Montego Bay, parce que c'est le nom de l'endroit de la Jamaïque où elle a été signée, qui date du mois de décembre 1982 et qui règle ces questions donc, des eaux territoriales, sur lesquelles l'État a sa pleine souveraineté, qui va jusqu'à 12 000 marins, des eaux, ce qu'on appelle les zones économiques exclusives, qui va jusqu'à 200 000 marins, en tenant compte de l'existence du plateau continental. C'est-à-dire, la théorie qui est derrière, c'est de dire le continent, en fait, se prolonge un certain temps sous les eaux, et puis après, on arrive dans les grandes fosses marines avec 5 000, 10 000 mètres, etc. Bon. Et donc, à partir de ces principes, cette convention, et donc l'ONU, a mis au point un système d'arbitrage entre États pour dire, ben, vous n'allez pas découper l'espace du voisin, vous mettez d'accord, et si vous ne mettez pas d'accord, vous êtes tous les deux signataires. Nous, on formule un avis, même un jugement, en disant, ben voilà, pour nous, la limite, elle est là, et on arrête de discuter, et surtout, on ne se fait pas la guerre pour ça. Bon. Mais le problème, c'est que cette convention internationale n'a pas été signée par tout le monde. Et si les États-Unis se sont permis de dire, eh ben moi, j'étends ma zone économique exclusive de 1 million de kilomètres carrés, excusez du peu, c'est que les États-Unis, comme d'habitude, n'ont pas signé la convention de Montego Bay. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, ils peuvent aller, y compris, mettre les pieds sur les eaux territoriales du voisin. Le voisin ne peut que protester en criant très très fort. Ça s'arrête là. Alors, je modère quand même ce propos, puisqu'ils ont fait ça à un moment donné, il y a quelques années, au Canada. Et le Canada a dit non, on est quand même entre voisins, on est entre amis, vous n'allez pas nous faire ça. Alors, s'agissant des relations avec le Canada, qu'il fallait quand même moduler, maîtriser, rester entre gentlemen, ils ont réussi à se mettre d'accord sur une limite. Mais c'est le seul cas. Partout ailleurs, ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent. Et comme ce mauvais exemple est suivi, je vais vous citer quelques pays qui n'ont pas signé non plus la convention de Montego Bay, qui donc n'ont pas d'eau territoriale, donc ils peuvent aller soi-disant n'importe où comme on leur semble. Le premier d'entre eux s'appelle l'État d'Israël. Ça vous étonne ? Comme d'habitude, Israël n'a pas de frontières terrestres, n'a pas de frontières maritimes, ne respecte pas grand-chose, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième État qui n'a pas signé aussi la convention de Montego Bay s'appelle la Turquie. La Turquie, la Turquie, rappelez-vous qu'ils ont tenté, et d'ailleurs on ne sait pas comment ça va se terminer, ils ont tenté d'étendre leurs eaux territoriales jusqu'à la Libye. Ben, pourquoi pas, on traverse la Méditerranée et on dit on va juste de l'autre côté. Alors, effectivement, ils auraient pu avoir cette mauvaise idée vers la Grèce, mais ils savent qu'avec la Grèce, ça serait un petit peu difficile et que ça se terminerait très mal. Mais en fait, ce n'est pas l'envie qui leur en a manqué. D'autres exemples sont là. Voilà, je vous ai cité les trois principaux non-signataires. Par contre, tous les autres, la Fédération de Russie, la Chine, les pays d'Europe, tout le monde a signé. Mais il y a quelques petites exceptions comme ça. Qui sont de taille, puisque en fait, on peut dire les États-Unis, la Turquie et Israël, c'est un ensemble assez cohérent. Alors, je ne dis pas que la Turquie est un fidèle disciple des États-Unis, mais en fait, ils ont quand même des liens assez étroits, militaires, de toutes sortes. Et la Turquie ne l'a pas signé aussi parce qu'elle ne voudrait pas qu'une instance internationale se mette de régir le passage par les détroits des Dardanelles et du Bosphore. Pour l'instant, c'est régi par une convention qui s'appelle la Convention de Montreux, qui est spécifique. Mais si la Turquie adhérait à cette convention, ça voudrait dire que l'ONU elle-même est en capacité d'intervenir sur cette question des détroits. Et en particulier, elle pourrait, l'ONU, si elle s'en sentait le courage, dire « Là, vous n'avez pas le droit d'imposer des règles de passage, vous êtes que la Turquie, un État riverain, etc. » Bon. Vous voyez, tous les abîmes de réflexion que ça amène à ouvrir. Et puis voilà, on va parler un petit peu de ce genre de choses. C'était juste pour faire une petite introduction. Et on va vous parler, pour commencer, on avait déjà abordé le sujet avant le début de l'émission, des élections présidentielles au Sénégal. Alors, point, je rappelle, d'abord toute une série d'aventures, ça devait avoir lieu, ça devait pas avoir lieu, ça devait être reporté, le leader qui voulait se présenter était en prison, enfin, je rentre pas là-dessus, il en a été beaucoup question. Et puis tout d'un coup, je donne une impression, puis je pense que Roselyne donnera la sienne et tout d'un coup, très très vite, puisqu'il y a eu 15 jours, je crois, de campagne électorale, le peuple sénégalais vote, massivement, en nombre, dans un calme très très grand de la vie générale, et il sort des urnes. Résultat non officiellement proclamé, il sort des urnes, un vainqueur qui est l'opposant du président actuel sortant. Bon. Qui s'appelle, vous avez entendu son nom, Bassirou Diomaye Faye. Faye, ouais. Je ne sais pas comment, si on prononce Faye ou Faye. Bon. Donc vous avez certainement vu sa photo sur les écrans, et il est là. Bon. Petit problème, c'est que le résultat officiel n'est pas proclamé. Et qu'il le sera que la semaine prochaine, peut-être même un peu plus tard. Ce qui veut dire que tout le monde considère, alors il y a une espèce de cri d'enthousiasme, ce Sénégal qui a donné tant de soucis à tout le monde, oh, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'entretuer, il y a des procès, il y a des changements de date tout le temps. Enfin, on avait l'impression d'une confusion extrêmement grande dans la situation politique sénégalaise. Et là, on a l'impression qu'on marche sur un tapis de rose, que tout le monde est content, que tout le monde est souriant. Et j'en étais à me dire, mais là je vais donner la parole à Roselyne, est-ce que ça va durer, cette espèce d'état de béatification de la population et du vote des Sénégalais?
Moi je suis un peu comme toi, je m'attends toujours au pire avec la France-Afrique, les coups tordus de la France-Afrique. Faut savoir que Macky Sall, c'était le vassal de la France-Afrique. Il a été éliminé quand même, bel et bien éliminé, a priori, puisque Bassirou Diomaye Faye...
C'est son opposant.
Voilà, son opposant, et c'est son opposant anti-système. Il faut quand même préciser qu'il y a eu des votes massifs de la part de la jeunesse sénégalaise. Et ça, enfin voilà, je veux dire, pour moi, c'est quand même révélateur. C'est quand même un signe d'une marche vers une Afrique subsaharienne plus souveraine. Voilà. Puisque son projet, c'est quand même d'éliminer le franc CFA, d'éliminer la corruption, de réajuster les richesses et que les richesses surtout rentrent dans la poche des Sénégalais.
Tout le monde, voilà, tout à fait.
C'est éventuellement de rejoindre les États du Burkina, Mali, Niger. Ce qui serait quand même une chose formidable.
Tout à fait.
Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que je me dis que du coup, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, autre vassal de la France et de l'Occident, risque d'être bien isolé. Et tout ça, je trouve que c'est une très bonne chose. Juste espérons que cela dure. Voilà. J'attends effectivement. Je me réjouis quand même de ces résultats, puisqu'il a quand même... largement,
il sera
élu au premier tour, c'est de toute évidence,
oui,
c'est ce que les résultats définitifs vont dire. Mais je reste quand même prudente parce qu'il y a eu beaucoup de coups tordus dans l'histoire de la France-Afrique.
Alors, autre dimension quand même, le programme que tu viens d'énoncer est d'un niveau d'ambition extrêmement élevé, c'est-à-dire il est contre tout ce qui s'est fait jusqu'à la date où il arrive. Donc ça fait beaucoup, c'est-à-dire l'obstacle est important.
Alors, il ne faut pas oublier que Bassirou Diomaye Faye, c'est le bras droit de Ousmane Sonko,
qui n'a pas pu
se présenter.
Oui, c'est ça.
Et il faut dire que donc, leur parti, le PASTEF, je ne sais plus ce que ça veut dire, parce que c'est très long, c'est un parti qui a été créé en 2014 par tous ces jeunes cadres, on va dire, dynamiques, qui en avaient justement assez de ne pas pouvoir profiter de toutes ces richesses du Sénégal. Donc... pour moi,
il y a déjà un actif politique dans la programmation.
Voilà. Je reste quand même un peu confiante.
Voilà, d'accord. Bon, on en reparlera. Habib, un avis là-dessus ? Non. Voilà. Donc, effectivement.
C'est pour moi, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que si ça avait été le contraire, j'aurais été
catastrophée. Ah oui. Voilà. Voilà. Donc, qui reste à confirmer en étant conscient que la marche sera difficile pour aboutir aux objectifs qui sont extrêmement ambitieux.
Oui, je rappelle qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues.
Un Sénégal qui travaille avec le Mali, avec le Burkina et le Niger, c'est-à-dire c'est un ensemble de 4 pays qui ouvrent sur la mer, que les 3 autres sont enclavés. Donc c'est un changement géopolitique de très très grande taille que ça opère.
Il est jeune, hein.
Il est jeune, oui, il est jeune. Non, mais ça, tant mieux, il est à l'image du pays et de sa population. Une dernière notation sur les personnages, sur Macky Sall et sur Emmanuel Macron, dont on a cité. Ils ont été tous les deux, on était en 2023, élus Young African Leader. Alors, vous savez ce que c'est que les Young Leaders ? C'est une idée qui a été reprise des États-Unis, avec les Young American Leaders, c'est-à-dire que la puissance dominante sélectionne dans les contrées qu'elle domine, c'est le cas donc de la France par rapport au Sénégal, au moins jusqu'à présent, elle sélectionne les personnages les plus intéressants, les plus prometteurs, les plus brillants autant que possible, pour continuer à maintenir sa tutelle sur le pays. Or, qui ont été nommés Young African Leader dans cette fondation qui s'appelle France Africaine, c'est le même jour Emmanuel Macron et Macky Sall. Bon. Et effectivement, donc on dit ils sont très très liés, ils sont très très liés, et on verra ce qui se passe.
Mais je savais pas que Emmanuel Macron était africain, moi.
Ah ben non, mais ça, il s'occupe de l'avenir de l'Afrique, il aime l'Afrique, bien entendu, oui, c'est pas comme Sarkozy qui dit qu'elle n'a jamais rentré dans l'histoire, lui, il sait qu'elle est rentrée dans l'histoire et qu'elle est en train peut-être de pas faire ce qu'il attend. Bon, donc ça, c'est à rappeler comme personnage. Et cette fondation, donc, elle a le mérite d'être présidée par quelqu'un dont le nom en dit long à ceux qui connaissent l'Afrique. Le président de cette fondation, donc, qui nomme les Young African Leaders, s'appelle Lionel Zinsou. Ça vous dit peut-être quelque chose. Il a été président du Bénin. Il est un brillant universitaire formé en France, Normale Sup, etc. Et aujourd'hui, Lionel Zinsou, ex-président donc, du Bénin, gagne sa vie. Il est conseiller de la Société Total pour les questions africaines. Voilà. Donc on a affaire à un monsieur parfaitement désintéressé qui survole la politique avec des grandes idées propres, mais qui est entre les mains de la principale multinationale française d'énergie pour le continent africain. Alors effectivement, le choix des Young African Leaders s'explique mieux quand on a ce genre de personnage à la tête de l'initiative. Oui, vas-y.
Juste dire que, comment il s'appelle, Macky Sall avait été nommé envoyé spécial pour le pacte de Paris pour les peuples de la planète, tu sais, depuis janvier 2024, ce pacte de Paris qui soi-disant éliminerait la pauvreté et préserverait la planète.
Voilà.
Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais enfin bon, j'ai aussi des doutes.
Voilà. Alors je vais enfoncer encore un clou dans le doute. Monsieur Macky Sall est allé l'année dernière, c'était au printemps, je crois au mois de juin, quelque part à Kiev. Ça vous dit quelque chose, Kiev ? Où il a été reçu avec d'autres chefs d'État africains, d'ailleurs par le président Zelensky. Et on peut découvrir à cette occasion que l'Ukraine a ouvert une ambassade au Sénégal. Alors vous arrêtez là-dessus, ben oui, échange de bons procédés. Il se trouve que c'est pas tout à fait un hasard, parce que ce qui s'est passé dans l'année 2023 du point de vue de la représentation diplomatique de l'Ukraine est très intéressant à suivre. Souvenez-vous qu'en 2022, à l'Assemblée générale de l'ONU, un projet de résolution est voté pour condamner l'opération militaire spéciale russe. Et à la grande horreur des diplomates des États-Unis et de Victoria Nuland en particulier, une grande partie des nations africaines s'abstiennent. Alors ne vote pas mais il n'y a que l'Érythrée qui avait voté pour, mais s'abstiennent. Et donc depuis ce moment-là, j'explique, l'Ukraine a eu pour mission d'aller ouvrir des ambassades dans tous les pays d'Afrique où c'est possible pour contrer l'influence russe en Afrique. Le projet est tout à fait clair. Et donc ça illustre une autre dimension de l'Ukraine qu'on n'a pas voulu voir, mais là c'est très très intéressant de la voir. L'Ukraine est aujourd'hui, j'allais dire à l'écale d'Israël, un outil de la politique étrangère des États-Unis Et pourquoi elle est un outil ? Parce que, de toute façon, elle ne peut pas faire autrement, parce que l'Ukraine ne tient pas debout. L'Ukraine est en train de s'effondrer démographiquement, est en train de s'effondrer industriellement, n'a pas d'argent, a une armée qui est en train de perdre la guerre. Et donc, en fait, tout ce que fait l'Ukraine, c'est-à-dire le frais de ses ambassades, effectivement des accords que l'Ukraine peut passer avec, par exemple, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, où l'Ukraine a une ambassade nouvelle aussi, tout ça, c'est de l'argent qui vient directement des États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas un pays indépendant, on a un pays qui rend des services, on a un pays vassal, dépendant, qui, tenu à coup d'argent, à coup d'armement, à coup de tout ce qu'on veut, tient debout pour effectuer des missions états-uniennes contre les adversaires des États-Unis, à savoir la Russie et la Chine au premier chef. Tout ça clarifie beaucoup, beaucoup la situation et ça évite de tomber dans ce discours par rapport au conflit ukrainien en disant « Oh, c'est qu'une question en Ukraine ». C'est pas vrai. C'est pas vrai puisqu'en fait, l'Ukraine est un agent des États-Unis qui intervient dans la politique mondiale pour les États-Unis, dans le sens des États-Unis, et rien que ça. Et les États-Unis se moquent comme d'une guigne, ils l'ont dit, du nombre d'Ukrainiens qui en mourront. Ils l'ont dit. Hein. Quelqu'un, je ne sais plus qui l'a dit, on fera mourir jusqu'au dernier Ukrainien. Et quand il n'y aura plus Ukrainien, on ira embaucher des gens ailleurs sous le drapeau ukrainien. Il y en a déjà. Bon, il y a des mercenaires. Et puis il y aura peut-être même l'armée française dans les semaines qui viennent. Bon, donc tout ça mérite d'être clarifié parce qu'on nous a focalisé en disant « Oh, c'est très très loin l'Ukraine, c'est à 2000 km de la France, etc. » En fait, non. Il s'agit d'un agent de la politique des États-Unis pour dominer, continuer à dominer le monde, et dans leur domination du monde, ce qu'il faut toujours rappeler, l'Europe n'est pas le continent qui cherche à défendre, pas du tout. Hein. Pas du tout. L'Europe est le continent même qui gêne, qui est un peu trop puissant économiquement, qui est trop nombreux, il y a plus d'habitants en Europe occidentale aujourd'hui qu'aux États-Unis. Enfin, tout ça, c'est des dimensions qui échappent au journalisme courant, qui échappent à l'observateur simple, mais que les stratèges de la domination impériale ont toujours en tête. Plus grand, plus riche, pour les États-Unis, c'est inacceptable. Et donc, effectivement, on fait tout pour réduire. Et ça m'amène à faire une transition, vous la voyez venir, sur ce qui s'est passé ces derniers jours, la semaine dernière très exactement, à Moscou. Alors je prends la chose à l'envers, puisqu'on a découvert, alors, à travers différentes lectures qu'on a pu faire en cherchant un petit peu, que les terroristes, hein, donc, puis les auteurs donc, du carnage du Crocus Center, étaient des Tadjiks. Et il se trouve que, mais je remonterai après pour vous parler un peu du Tadjikistan, il se trouve que l'ambassadeur d'Ukraine en Tadjikistan, parce que là aussi il y a un ambassadeur, et ce monsieur était, jusqu'en 2022, le chef des services secrets de l'Ukraine. Alors vous allez dire, c'est quand même bizarre, le chef des services secrets de l'Ukraine, donc qui a un poste important, surtout en état de conflit, qu'on envoie dans cette petite république, un trou perdu, j'allais dire, j'ai rien contre les Tadjiks, hein, un trou perdu au fin fond de l'Asie, 10 millions d'habitants, avec la moitié du territoire qui est couverte de montagnes à 6000 mètres d'altitude, ouais. C'est la chaîne du Pamir et tout. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Ben, l'intérêt, c'est d'être là au bon moment pour trouver des terroristes quand on en a besoin. Parce qu'on sait qu'il y en a, on sait... Alors, je situe le Tadjikistan, donc petit pays. Alors, regardez-le sur la carte avec une frontière avec la Chine, à l'est, une frontière avec l'Afghanistan, au sud, et une frontière avec l'Ouzbékistan, à l'ouest. Bon. Donc, une frontière assez longue avec l'Afghanistan, et on sait d'expérience que cette frontière-là est assez poreuse. Elle l'a été largement du temps de l'occupation américaine. Elle doit le rester probablement parce que c'est des conflits difficiles. Vous savez que c'était la zone. Je rappelle un nom qui a été célèbre à l'époque dans la question afghane. C'était le commandant Massoud. Vous vous souvenez tous du commandant Massoud. Le commandant Massoud, en fait, était un Tadjik. Et dans le nord de l'Afghanistan. Dans le nord de l'Afghanistan, il y avait beaucoup de Tadjiks. Et puis, s'il y avait beaucoup de Tadjiks, ça veut dire qu'en fait, dans ces frontières, dans des zones montagneuses, dans des pays très arriérés en termes d'infrastructures, on est d'un côté ou l'autre de la frontière, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. On va, on vient. Et puis si on va, on vient, je dis on va, on vient, mais les trafiquants de drogue aussi, ils vont, ils viennent. L'argent à blanchir, il va et il vient, etc. Tout ça est connu. Donc quand vous envoyez un monsieur du niveau du chef des services de renseignement de la République d'Ukraine, ambassadeur à Douchanbé, capitale du Tadjikistan, vous avez des idées derrière la tête. manifestement. Et vous savez que vous l'envoyez à un endroit sensible. À ce moment-là, qu'il ait pu trouver ce monsieur, je ne sais pas si c'est lui, enfin qu'il ait trouvé mission de laisser passer des Tadjiks qui habitent au Tadjikistan, qui n'y habitaient peut-être pas et tout, on n'en sait rien, puisque même le président actuel du Tadjikistan, M. Ramon, a dit qu'ils n'étaient pas Tadjiks. Alors aussi bien, ils vivaient déjà en Afghanistan, il a suffi qu'ils passent la frontière. Et il faut savoir qu'à l'intérieur de l'espace de la communauté des États indépendants, donc l'espace des anciens de République soviétique, la circulation est très facile.
Il n'y a pas de vie. Il y a beaucoup de travailleurs voilà. Tadjiks en Russie.
En Russie et dans toutes les grandes villes de Russie, il y a une espèce de prolétariat urbain, les boulots mal payés, ramasser les ordures et tout ça, c'est fait par des Kirghizes, par des Tadjiks, par des Ouzbeks, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de liberté de circulation de ces migrants-là au nom d'un passé collectif ancien. C'est-à-dire on a tous été des citoyens soviétiques et donc on se complique pas la vie. Mais en fait, ça introduit quand même une hiérarchie sociale très, très nette. Parce que ces Ouzbeks, ces Tadjiks, ces Kirghizes, c'est un peu le prolétariat le plus exploité qu'il y a dans la Russie actuelle. Ce qui explique, et vous voyez que tout se recoupe et tout prend sens, c'est-à-dire que si vous mettez comme promesse à un personnage qui fait partie de cette couche sociale et de cette origine géographique, vous lui mettez $5,000 sur la table, après tout, il peut se laisser tenter. Ça s'explique. Et puis, il a peut-être... on ne prend pas forcément des gens qui ont des QI très, très élevés. Et donc, tout ça tient debout. Tout ça tient debout. Et donc, ça explique assez bien que cette piste-là, de mon point de vue, c'est la bonne. Du point de vue-là, c'est la bonne. Et ça a été confirmé par le fait que les auteurs de l'attentat de Crocus donc, ont été rattrapés dans leur voiture alors qu'ils étaient en train d'essayer de passer en Ukraine où, manifestement, on les attendait. Encore qu'il y a des petits observateurs malins qui ont dit « Oui, ils croyaient qu'en Ukraine, on leur dresserait un monument et qu'on les accueillerait, qu'ils seraient riches. Aussi bien, ils seraient tous les quatre passés par les armes et on n'en aurait plus parlé parce que dans ces cas-là, on élimine ce genre de témoins pour qu'ils ne parlent plus. » Alors, ils n'ont pas réussi à passer, donc ils sont entre les mains de la police russe, et probablement, on en saura plus quand l'enquête continuera.
Oui, moi, j'avais entendu dire que les États-Unis avaient averti la Russie qu'il y aurait des risques de ce genre dans des grands rassemblements. Voilà. Comment on l'explique,
Alors ça a été précisé depuis, parce que la nouvelle est arrivée comme ça, l'état brut où tu la donnes. Et en fait, l'ambassade des États-Unis, comme l'ambassade de Grande-Bretagne, ont prévenu leurs ressortissants. Donc leurs ressortissants, donc ce n'était pas dans les journaux, ils ont prévenu les gens dont ils ont les noms, qu'il y avait effectivement depuis le début du mois de mars un risque. Alors il y a une première date qui était la date d'un premier concert chez Crocus, c'est arrivé trop tard, et puis le deuxième concert c'était celui qui avait lieu le vendredi soir dont on parle. Bon.
Mais comment aurait-il pu savoir? C'est ça que je ne comprends pas.
Et bien voilà, toute la question est là. Toute la question est là.
Service d'espionnage.
Voilà, service d'espionnage. Voilà. Donc, ils savaient. Donc, effectivement, alors, ce qu'ils avaient pu savoir et ce dont nous, on était bien conscients, c'était que l'Ukraine avait décidé, dans la mesure où, sur le plan militaire, l'Ukraine reconnaît et sait, et les États-Unis encore plus, qu'elle n'est pas en capacité de gagner la guerre, qu'elle était réduite maintenant à mener des opérations, d'attaquer des villes en Russie, proches, moins proches que Moscou, de tenter des attaques avec des drones ici et là, sur Sébastopol, sur le pont de Crimée et tout, qu'il ne leur restait que ça, comme moyen de nuire. Mais il ne s'agit même plus de gagner la guerre, il s'agit de nuire. Donc de compliquer la vie de la Russie, de faire prolonger le contrat, de faire autant de victimes que possible sur le sol russe pour retourner l'opinion russe contre la direction russe. Parce que l'objectif est tout à fait clair, c'est pas seulement la mort. C'est dire, à un moment donné, plus on aura tué de gens à Belgorod, à Moscou, etc., ou à Rostov, plus effectivement les électeurs s'éloigneront de Vladimir Poutine. Bon. Alors ça, on pensait que le calcul était fait, ils en sont parfaitement capables, ils l'ont déjà fait. Ce calcul a certainement été fait. Le problème, c'est que ce calcul a raté. ce calcul a copieusement raté, puisque les résultats obtenus par Poutine à l'élection présidentielle les ont laissés quoi ? Ils ne savaient plus quoi dire. Alors, ils ont eu beau dire qu'on ne reconnaîtrait pas, etc. Mais enfin, ils n'ont, je pense, guère d'illusions sur la mobilisation acquise de la population russe derrière le gouvernement actuel. Et donc, ils sont un peu dans une recherche de solutions qu'ils n'ont pas trouvées. Alors, il restait plus que ça, essayer de retourner, donc, d'une part, gommer le résultat électoral. C'est-à-dire, avec l'attentat de Crocus, on a fini par ne plus parler du tout du résultat électoral. Ah, hein, ça, c'est négligé. Puis d'abord, c'est pas normal, un chef d'État élu avec 87% des voix, c'est insupportable. Bon, hein, et donc, on gomme, on efface l'événement en tant que tel, et puis on crée un centre d'intérêt, et là, on brouille les pistes autant que c'est possible. Mais les pistes, je vous les ai décrites à travers l'ambassadeur d'Ukraine à Douchanbé, à travers les Tadjiks et leur rôle dans l'économie de cette région-là du monde, les pistes sont tout à fait claires. Donc, il n'y a pas beaucoup à hésiter. Alors, c'est là qu'on invente, et ça a été fabriqué après, vous l'avez vu sortir ces derniers jours, enfin, à partir de samedi, dimanche, on a réinventé une piste État islamique.
Oui.
C'est-à-dire, on dit, ah, s'ils viennent, alors peut-être d'Afghanistan, il y a des cellules dormantes de Daesh quelque part en Afghanistan. En fait, c'est Daesh qui a mené le coup. Alors, on a vu apparaître des photos où on voyait des gens avec la signe de Daesh, etc. Hein, il s'agit, de brouiller les pistes, de vendre à l'opinion occidentale une version qui n'est pas celle, qui est voulue. Le problème, c'est que l'autre version que je viens essayer de vous décrire à petits traits, sans rentrer trop dans les détails, elle est tellement solide, elle est tellement comprise par toute une série de pays qui ont été victimes de ce genre de pratiques, que la version de l'État islamique ne tient plus. Elle tient d'autant moins que ça fait des années que les États-Unis, soi-disant, et la coalition qu'ils entraînent, que ce soit en Syrie ou ailleurs, disent « on a pratiquement liquidé l'État islamique ». Alors vous l'avez liquidé, mais là, tout d'un coup, il ressort et il fait alors une action de très haut niveau. L'action terroriste de très haut niveau, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'un attentat suicide avec une ceinture d'explosifs. Il s'agit donc d'une équipe qui a été recrutée, à qui on a fourni des armes bien, bien utilisables et bien meurtrières, qui étaient préparées dans une cache à l'avance, à qui on a donné les moyens de mettre le feu au centre Crocus, à qui on a trouvé un moyen d'avoir une voiture Renault de marque qui les attendait pour s'en aller, enfin, tout ça, et à qui un ordre, et c'est eux-mêmes qui le disent dans ce qu'on a vu des premiers entretiens, à qui l'ordre a été donné de balancer tous leurs papiers, de mettre le feu et tout, pour qu'on ne puisse plus les identifier après. Ça ne correspond en aucun cas aux attentats islamistes tels qu'on en a connu, qui vont en général jusqu'à la mort, Et donc là, alors, on va bien sûr, je vois bien le travail qui est fait sur l'opinion occidentale. Il faut dire que cette version-là, qui est probablement la version la plus exacte, est fausse, et fabriquer une autre version. Cette autre version s'écroulera dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'au niveau de l'information immédiate et de l'émotion immédiate, émotion réelle, y compris devant l'ambassade de Russie en France, à Paris, il y a eu des gens qui sont venus déposer des bouquets, parce que 160 morts, c'est énorme. Hein, c'est énorme, c'est évidemment des innocents.
Cette équipe de terroristes, quand ils ont accompli leur besogne, ils n'ont pas dit « Allahu Akbar ».
Non, voilà. non, mais c'était pas.
Donc, comment...
non. Voilà. Non, alors tout ça, mais ce qui importe quand on fabrique ce genre de campagne d'opinion, on sait que ça va occuper les journalistes patentés, les écrans de télévision pendant 8-15 jours, et puis qu'après, même s'il y a un démenti, ça passera inaperçu. L'important, c'est d'éviter que la version exacte et le fait que la Russie est en train de gagner la guerre sur le terrain et que Poutine a été élu avec 86% des voix, ça, il ne faut plus en parler.
Et même sur le plan économique aussi.
En plus. Russie, ouais. Voilà, en plus.
PBI.
Ben voilà. Hein. Alors, le Tadjikistan, j'y reviens un peu. Donc, petit pays, compliqué, très compliqué, avec une vallée, en gros, autour de sa capitale, Douchanbé. Et puis, toute la partie est du territoire, c'est le massif du Pamir. Mais, j'explique bien, le massif du Pamir, c'est un massif énorme qui est entre 6000 et 7000 mètres d'altitude.
Ouais,
c'est pas un endroit où on va promener ses moutons, hein. Ou s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup.
Pas beaucoup.
C'est un endroit très, très sauvage. Donc, il y a les 10 millions d'habitants, ils sont maintenant maintenant, la croissance démographique est relativement forte, mais effectivement...
Une c'est... grande superficie, hein, quand
oui,
même.
Oui, oui, c'est grand, mais c'est très peu occupé. Ouais, 10 millions d'habitants occupé. Pour ça. Ah, ouais. Et alors, ça a cette particularité, je reviens à son président, qui s'appelle M. Ramon, mais qui s'appelait Ramakov. Alors, en fait, il a tadjikisé son nom, il portait un nom à terminaison russe, hein, mais c'est un des rares survivants des anciens dirigeants communistes de l'ère soviétique. Il n'est pas arrivé au pouvoir tout de suite après 91, mais il y est depuis un certain temps.
C'est-à-dire et beaucoup des noms musulmans ont été...
Voilà, ont été transformés
en
voilà.
Off à la fin.
Voilà, et maintenant il est revenu Ramon, hein, ouais. On le voit dans tous les sommets. Je mets tout ceci en relation avec ce qui s'est passé dans cet espace donc centre-asiatique depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que les Chinois, les tout premiers, se sont rendus compte que, et c'est pour ça qu'ils ont tracé dedans la route de la soie, ouais. Qu'il ne fallait pas que ces pays enclavés, difficiles, c'est difficile, il n'y a pas une voie ferrée au Tadjikistan, il faut bien se rendre compte de ça. Hein. Donc il fallait que ces pays soient intégrés à l'économie internationale telle qu'elle est, qu'il y ait des routes, qu'il y ait des voies ferrées, etc., et qu'ils ne soient pas laissés tout seuls dans leurs montagnes et avec leurs troupeaux. C'est ça le sens d'une part de l'organisation de coopération de Shanghai, dont le Tadjikistan est membre, et le sens des routes de la soie qui permet fait, de désenclaver, c'est-à-dire d'ouvrir ces pays-là. Donc je les rappelle, donc, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Ouzbékistan et Turkménistan, Kazakhstan à moindre degré parce que le Kazakhstan est relativement plus ouvert déjà, s'ouvrir à l'économie des échanges internationaux. Et donc monter en richesse, car je le dis, dernier point, je reviens aux 5000 dollars mis sur la table, c'est-à-dire qu'au moment de la chute de l'URSS en 1991, la République soviétique socialiste du Tadjikistan était la plus pauvre des républiques soviétiques. Ouais. Bon. Et c'est pas, ça n'a pas changé depuis beaucoup. Hein. Donc c'est dans ce genre de terreau qu'on va trouver des gens prêts à n'importe quoi pour pas grand-chose. Ben, c'est pas cher, 5000 dollars. Hein. C'est rien, 5000 dollars. Sauf pour quelqu'un qui meurt de faim. Voilà. Voilà, pour recadrer, donc, je rends hommage à la Chine qui a vu le problème, qui a lancé donc, la coopération de Shanghai. La Russie a très très vite compris. Ensuite, on a la route de la soie qui est destinée à ce que ces pays ne restent pas en retard. Le Tadjikistan, le tout premier d'entre eux, oui, puisque ça reste le plus pauvre des pays et un des moins peuplés, le Kyrgyzstan n'est pas beaucoup plus peuplé, de cette zone-là du monde. Voilà pour replacer un peu cette affaire. Dernière chose, mais ça c'est un clin d'œil de l'histoire. Le propriétaire fondateur du centre Crocus, qui est donc un centre commercial avec des salles de spectacle à l'intérieur, est un citoyen d'Azerbaïdjan qui est un ami de Donald Trump. Bon, ça c'est un clin d'œil de l'histoire. Après tout, il y a peut-être eu la réflexion sur le choix de l'endroit où allait avoir lieu cet attentat, puisque dans Moscou, il y avait peut-être d'autres endroits possibles où d'autres dégâts de la même taille auraient été possibles. Le choix était peut-être une façon pour l'équipe à Biden de dire, tiens, on va faire de la peine aux copains à Donald. Ça, voilà, mais ça c'est juste, c'est du niveau du canard enchaîné, faut pas s'arrêter là-dessus. C'est sans importance. Voilà ce que je voulais dire sommairement, disons, sur ces attentats.
Moi, je pense que l'attentat était prévu pendant les élections.
Et peut-être.
À mon avis.
Peut-être.
À mon avis, mais ça a été retardé. On ne sait pas très bien encore. Bon, il n'y a pas eu de... c'est pas fini encore.
Ah non, on saura progressivement parce que il y a outre les fuyards donc qui a été arrêté. Alors je signale quand même, ils ont été arrêtés dans une zone forestière à l'abri des regards et ils ont été arrêtés par un morceau de l'armée russe qui est dirigé par un Tchétchène qui s'appelle Ramzan Kadyrov.
Et ils partaient vers l'Ukraine. Hein.
Et ils partaient vers l'Ukraine puisque
ils rentraient à l'Ukraine.
Alors et ils y allaient à un endroit où effectivement on est bien au nord de la ligne de front actuelle dans la guerre, donc un endroit qui est certainement mieux surveillé, moins bien surveillé que les autres où on peut pas passer parce que sur la ligne de front on passe pas comme ça. Ouais. Hein. Donc tout ça fait partie des données de la situation. Donc éliminer le résultat des présidentielles russes, on n'en parle plus, faire croire que ça va mal, et puis faire monter en puissance l'appareil terroristico-diplomatique de l'Ukraine. Ça, c'est très important d'avoir cette compréhension. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'implantation de l'Ukraine dans les ambassades en Afrique, à l'heure actuelle, hein, en soulignant que si jamais le Sénégal tombe, enfin, change de bord, effectivement, aussi bien cette ambassade fermera, hein, et il y aura, surtout s'ils se mettent d'accord avec leurs voisins du Mali, du Niger et du Burkina, là, à ce moment-là, il n'y aura plus d'accord avec l'Ukraine, et il ne restera plus embarqué dans cette mauvaise galère qu'un certain Alassane Draman Ouattara, qui aura la dernière belle ambassade d'Ukraine sur le continent africain, dans les colonies françaises. Il y en a ailleurs.
C'est qu'un consulat, la Côte d'Ivoire.
C'est qu'un consulat ?
Ouais.
Ah bon, bon, sur les cartes que j'ai vu.
Ah ouais. Ah, non. En tous les cas, il y a 83... ambassades et 146 consulats étrangers d'Ukraine dans le monde.
Dans le monde, voilà. Hein. Donc, ils ont pas perdu leur temps. Donc, j'insiste là-dessus, mais c'est important de se rendre compte que ce pays qui est aux prises avec une guerre, dont l'existence même est menacée, a une politique étrangère d'une ambition extraordinaire, tout simplement parce que c'est pas la sienne, c'est tout, ça va pas plus loin que ça. Hein. Autrement, il aurait pas l'idée, quand on est en guerre et qu'on risque de beaucoup souffrir, qu'on a perdu des centaines de milliers d'hommes, qu'on a plus d'argent, se mettre à ouvrir des ambassades partout, à se promener dans le monde entier. Ça éclaire aussi un aspect qu'on a développé il y a quelques semaines, là, quand on a parlé de la mer Rouge et du Soudan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez entendu cette émission. J'avais découvert à cette occasion qu'effectivement, Zelensky se préoccupait de l'avenir de la guerre civile fratricide au Soudan et qui soutenait un des deux camps. Et donc, vous me disiez, qu'est-ce que fait l'Ukraine là au milieu sur un problème qui ne les concerne pas ? Ben, il s'agissait simplement de compliquer la tâche par rapport à un gouvernement soudanais qui était en train de négocier avec la Russie la création d'une base militaire à Port-Soudan sur la mer Rouge. Et donc, plus le conflit meurtrier, dramatique au point de vue de la population soudanaise se prolonge, moins le projet d'établir une base militaire tranquille à Port-Soudan par la Russie peut déboucher. Et donc, on a là, alors, il faut bien raisonner, quand on vous parle, le Programme alimentaire mondial, l'OMS et tout, vous parle de la crise humanitaire soudanaise, il faut bien voir que cette crise humanitaire soudanaise est liée directement à des objectifs géopolitiques d'influence des uns ou des autres sur le territoire du Soudan, sur l'immense territoire du Soudan. Autrement, il n'y aurait pas de souci. Le problème est qu'il ne faut pas que le camp qui est favorable à la Russie gagne. C'est ça l'enjeu. Et il faut bien se rendre compte que les affrontements qu'on voit de ce type-là sur la planète à l'heure actuelle sont des affrontements dramatiques, en ce sens que les puissances, et je pense aux États-Unis, qui veulent absolument pas perdre pied à cet endroit-là du monde, sont prêts à ce qu'il y ait des centaines de milliers de personnes qui soient déplacées, des centaines de milliers d'autres qui meurent de faim, etc., parce que de toute façon, ça ne compte pas pour eux. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, je serais pas encore surpris, parce que tant que le régime Zelensky est toujours là, il risque d'y avoir encore des interventions très, très inattendues de la diplomatie ukrainienne dans des endroits de conflit ici ou là. Je rappelle quand même que M. Zelensky est venu en personne assister à la cérémonie de proclamation de prise de pouvoir de M. Mieli, le nouveau président argentin. Ce qui en dit long, c'est-à-dire cet international américano-sioniste corrompu, elle a pris le pied en Argentine avec l'arrivée de ce nouveau monsieur. Et donc là aussi, l'Ukraine était dans le coup et il est venu. Hein. Il n'a pas dit « Ah non, non, je suis pris, il y a la guerre chez moi, hein, je vais passer 8 jours en Argentine ». Mais c'est un chef d'État raisonnable ne ferait jamais ça. Dire, il y a la guerre chez moi, il y a des milliers de personnes qui meurent tous les jours, et je m'en vais me promener et faire le joli cœur et faire de la propagande américaine à l'étranger. Mais si, tu es fait pour faire de la propagande américaine.
Pour l'Amérique.
Voilà, tu es fait pour faire clair. De la propagande américaine et continue de faire de la propagande pour les États-Unis. C'est parfaitement clair. Un mot sur l'Argentine quand même. Il y a eu une grande manifestation ce week-end contre le gouvernement Mieli. Il est annoncé qu'il y a eu au moins 500 000 de personnes dans les grandes rues de Buenos Aires. Bon. Ça veut dire qu'il y a une vraie résistance. Mais de toute façon, ils ont très, très bien compris ils avaient affaire, à qui ils avaient affaire et qu'ils allaient tout perdre, le peu qu'ils avaient pour une partie d'entre eux, et que donc il fallait s'organiser très, très sérieusement. Alors, je souhaite beaucoup, beaucoup de courage, mais je laisse déterminer. Et on sait qu'en Argentine, je prends toujours l'exemple des maires de la place de Mai, on a la capacité de courage de continuer pendant des années une même manifestation toutes les semaines, le même jour, pour protester contre une politique qui ne vous va pas. Alors, je souhaite que ce soit beaucoup plus que les maires de la place de Mai, qui est autant que possible, et tous les week-ends, des centaines de milliers de personnes dans toutes les rues des grandes villes argentines pour faire tomber ce gouvernement dangereux. Bon, on verra.
Bon,
bien.
On attaque.
Qu'est-ce que je voulais développer ? Alors, oui, par rapport à, je reviens à la situation, à la post-attentat à Moscou. Parce qu'il y a eu des positions très intéressantes de la part du secrétaire général du Parti communiste russe. Vous savez que le Parti communiste russe existe, ouais. Qu'il a des élus, un grand nombre, 25% des élus à peu près à la Douma, au Parlement.
20%, non, ouais, voilà,
au Parlement. Ils sont à la tête d'un certain nombre de grosses municipalités. Donc c'est un parti qui existe, qui n'est pas toujours d'accord avec le président et son gouvernement, mais qui existe et qui vit. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Donc le président de ce parti, qui s'appelle M. Zyuganov, alors je le situe parce qu'il fait allusion dans l'entretien que j'ai lu, il fait allusion à une rencontre qu'a eu Vladimir Poutine avec les présidents des groupes parlementaires principaux. C'est-à-dire, je vous avais mentionné la semaine dernière que Poutine avait d'abord reçu les trois autres candidats au présidentiel. Et il avait été extrêmement correct, il avait dit « effectivement, vous avez eu de tout petits résultats ». Ça ne veut pas dire que votre audience électorale a baissé. Ça veut dire que dans les circonstances que vit le pays, les suffrages se sont concentrés sur la défense du pays et donc sur ma personne qui porte cette volonté de ne pas laisser le pays mourir. Bon. Et donc, on n'a pas vu de protestation. Et puis, le même jour ou le lendemain, Poutine avait reçu les présidents de tous les groupes parlementaires à l'Assemblée, dont Zyuganov. Et Zyuganov fait référence à cette rencontre et il dit « mais on est parfaitement d'accord avec lui sur ce plan-là. Sur d'autres plans, on a des désaccords sur des plans fiscaux, etc. Mais là, on est parfaitement d'accord. Il s'agit bien, on a compris, nous on est le deuxième parti de Russie, que c'est l'existence de la Russie qui est en cause. Point, c'est tout. » Et voilà ce qu'il dit donc après cet entretien, à propos de... Donc l'entretien a eu lieu avant l'attentat de vendredi, et il dit la chose suivante. « Ce qui s'est passé à Crocus vendredi dernier est une immense tragédie, une immense douleur pour tout le pays. Je tiens à exprimer mes condoléances aux parents, aux amis des victimes et à tous les citoyens de notre grande patrie, contre laquelle les anglo-saxons mènent une guerre d'anéantissement. Il faut en prendre conscience et comprendre que cet attentat terroriste, sauvage, impitoyable, cynique, s'inscrit dans cette lignée criminelle. Oui, ce n'est pas la première fois que la Russie connaît un tel malheur. » C'est exactement les propos que tient Poutine. Donc, on va dire qu'il n'y a pas d'opposition en Russie. Ben, s'il y a une opposition, mais s'ils sont en opposition sur des problèmes de politique intérieure, d'une politique fiscale, politique sociale, sur les retraites et tout, là, ils ont bien compris qu'effectivement, il fallait d'abord sauver le pays pour ensuite faire avancer les affaires collectives. Qui ne vont pas si mal, d'ailleurs. Qui ne vont pas si mal, puisque tu faisais allusion tout à l'heure, Habib, à la situation économique de la Russie. Il faut savoir que, contre toutes les attentes occidentales et celles de Bruno Le Maire parmi d'autres, le PIB de la Russie a augmenté de 3,5% l'année dernière et il va continuer cette année au même rythme et que donc les pays européens qui ironisent sur l'économie russe ont bien tort de le faire puisqu'au fond, aucun d'entre eux n'est capable d'avoir de tels niveaux de réussite économique, enfin de progrès économique en termes de PIB au moins. Aucun. Il y en a même dont le PIB baisse, je pense à l'Allemagne. Et la France a des résultats. Alors, ce qui a été affiché dans le budget qui a été voté en décembre à l'Assemblée, on était à 1,2. On est déjà descendu à la moitié 0,6. Et d'après les dernières nouvelles, la situation économique et financière de l'État est telle que M. Macron, encore la semaine dernière, après avoir annoncé qu'il allait partir en guerre contre la Russie, a demandé à ce qu'il y ait encore 50 milliards d'économies. Donc où on va les prendre ? Alors on a déjà, c'est déjà annoncé, je le confirme pour les auditeurs, parce qu'évidemment, on vous fait parler, enfin, on fait ironiser sur Macron, Napoléon, le Petit. Non, Napoléon le Petit, c'était Napoléon III. Ça, c'était l'expression était de Victor Hugo. Là, c'est Napoléon le minuscule. C'est, bon, mais c'est pas le Petit. Et donc, comme on dit qu'on va aller faire la guerre, ça coûte un peu la guerre et tout, mais donc, il va falloir prendre l'argent. Alors, dans les bouches des ministres de M. Attal, il y a diminuer l'APL, diminuer diminuer les remboursements de la sécurité sociale, enfin, gratter partout, détruire l'État social.
Ouais.
Voilà, c'est tout à fait clair, pour c'est... continuer avec des ambitions qui ne sont pas atteignables, parce que vous notez bien, je ne vais pas insister là-dessus, mais que le ministre de la Défense russe n'est pas terrorisé par l'arrivée des troupes macroniennes. Pas du tout,
pas du tout.
Si jamais elles y sont. Alors, il semble bien
qu'ils seraient déjà sur place, si j'ai
alors,
bien compris.
D'après, oui, d'après le chef des services de renseignement russe, qui s'exprime de temps en temps là-dessus, il dit qu'effectivement, il est arrivé des contingents français, polonais et allemands dans une banlieue de Kiev et qui sont installés pour l'instant dans des écoles. Alors, si c'est ça, alors... Bien, ben, bonjour messieurs, bon courage, parce que si effectivement le chef des services de renseignement russe sait que ces gens-là sont installés dans des écoles dans la banlieue de Kiev, c'est qu'il a l'adresse exacte et que le jour où il va envoyer un missile hypersonique sur ces écoles, il ne restera pas grand monde. C'est, bon,
c'est
alors, celui qui aura envoyé ses soldats français, puisque là il ne s'agit plus de mercenaires, on a changé complètement d'échelle, il s'agit de soldats français, d'une unité dont on ne connaît pas le nom, alors on ne sait pas si c'est une brigade de ceci, si c'est de l'infanterie là, peu importe, c'est peut-être une unité fabriquée d'ailleurs.
La Légion étrangère.
Ben, apparemment ouais. Non, apparemment ouais. Non, parce qu'on en a parlé de la fameuse demi-brigade de la Légion étrangère, qui est au Larzac, et en fait apparemment ce ne serait pas elle. Donc on a probablement fabriqué une unité avec des volontaires militaires pour aller là-bas, moyennant peut-être une prime, je ne sais pas, mais combien, quelle est la proportion de ceux qui reviendront, on peut se poser des questions. Enfin, moi je dis avoir lu donc, les commentaires du responsable des services de renseignement russe qui dit « ils sont là bon. ». Donc ils sont là, entre le jour où on les a vus bien identifiés...
Ils savent où ils sont.
Et le jour où on décide d'envoyer un missile hypersonique sur les écoles en question, il ne restera pas grand monde. Hein. Et ça, ce sera... Alors, je voudrais voir, il est capable de toutes les comédies, la tête de M. Emmanuel Macron dans la cour des Invalides, quand il sera obligé de mettre des décorations sur des cercueils entourés de drapeaux écolos. C'est une image qui me répugne. Qui me répugne, qui est honteuse.
C'est un peu aussi, ils ont envoyé des soldats français à Gaza.
Pareil.
Maintenant, ils ont dit, oui, on va essayer de les juger. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. On va essayer de les juger parce qu'ils ont commis des crimes de guerre.
Voilà.
Oui, mais comme ils sont franco-israéliens, on dit qu'on ne va pas les juger en tant que Français.
La double nationalité, ils peuvent aller, mais pas commettre des crimes de guerre.
Ouais.
Ils ont commis parce qu'ils ont mis à nu des médecins.
Tout à fait, oui, tout à fait. Ils n'ont pas été moins sauvages que les autres, c'est ce qu'on peut dire. Et qu'est-ce que je reviens sur M. Zyuganov qui, à l'occasion de ce commentaire sur les attentats, le journaliste lui demande « Et si vous regardez la date, elle n'a peut-être pas été choisie par hasard ?» Et il répond « C'est le 25e anniversaire de l'attaque agressive des États-Unis contre la Yougoslavie. Pour la première fois, après la Grande Guerre patriotique, l'OTAN avait attaqué un pays frère, un millier d'avions l'ont bombardé 8 jours durant, ils ont tué des gens et des terres uniquement pour des raisons de désobéissance et de solidarité avec nous. » Voilà, ça c'est bien rappelé, et effectivement c'était exactement la date anniversaire du bombardement de la Yougoslavie. Et d'ailleurs un des premiers à avoir réagi à l'attentat donc, de Crocus, du centre commercial Crocus, ça a été le président serbe lui-même, qui a dit « mais évidemment ça ne me surprend pas, puisque nous Yougoslaves, les premiers à souffrir de ce type d'intervention ». Ça, alors, ce n'était pas terroriste, puis c'était clairement l'armée de l'OTAN et l'armée des États-Unis qui bombardaient. Je rappelle, sans l'aval du Conseil de sécurité, avec des justifications tout à fait douteuses. Bon, on ne revient pas là-dessus, mais c'était bon de l'évoquer, car dans l'histoire contemporaine de la Russie, le bombardement de la Yougoslavie a constitué un tournant dans la compréhension que la direction russe, c'était à l'époque encore... c'était encore Eltsine qui était à la tête de l'État. Et Poutine était dans son équipe dirigeante. Il n'était pas encore président. Il allait l'être la fin de l'année, enfin au début de l'année 2000. Mais c'est à ce moment-là que l'équipe d'Eltsine a compris qu'on ne pouvait pas avoir de rapports amicaux avec les États-Unis. Que les États-Unis, de toute façon, avançaient toujours dans le même sens, détruire leurs adversaires, et que le reste n'était que littérature. ça reste comme un acquis, et c'est ouais. bien que Zyuganov le rappelle, il était vivant, il a un certain âge maintenant, il était vivant, il a vécu ça aussi. Ça a été un signe, et je vous dis, le président Vučić, la semaine dernière, tout de suite après l'attentat, a dit, mais je connais la musique, hein, je sais très bien qui organise ce genre de choses. Bon, c'est donc pas l'État islamique. Et lui, il en a souffert. Je rappelle donc que l'aviation OTAN a bombardé donc des civils, a bombardé des hôpitaux, a bombardé l'ambassade de la République populaire chinoise, a bombardé des usines qui ont écoulé leur pollution dans le Danube en abondance, enfin, a fait un travail épouvantable de... comment dire, d'attaque d'un pays, et d'un peuple. C'est plus même pas attaquer un pays, c'est attaquer un peuple. C'est-à-dire, il faut savoir qu'ils attaquaient des endroits dans la rue où il y avait des gens qui manifestaient contre les bombardements, et ils bombardaient quand même. Bon, c'est donc pour montrer la capacité de négation de l'humanité quand ce genre de projet est lancé. Alors, rappelez-vous, si vous voulez vous faire de la peine, les propos du porte-parole de l'OTAN de l'époque, où tout allait bien, c'était une opération magnifique, etc. On avait tous les objectifs étaient atteints. Et tout ça pour installer un camp militaire au Kosovo, qui est encore... Hein, mais en fait, le plus grand camp militaire américain aujourd'hui en Europe, c'est l'Ukraine en entier. Enfin non, c'est toute la partie qui est encore sous le gouvernement de Zelensky, et pas le reste. Qu'est-ce qu'il est sorti encore à la suite de cet attentat ? Un certain nombre de confirmations sur les suites du conflit. C'est-à-dire que la Turquie s'est empressée de dire « s'il faut négocier, je suis là, venez chez moi ». Alors je ne sais pas si ça aura des suites, mais ce qui est important, c'est qu'il a été clairement dit, en particulier par Dmitri Medvedev, qui est le vice-président du Conseil national de sécurité russe, il était de dire « désormais, nous devons imaginer que la Russie ira jusqu'à la rive est du Dniepr ». Alors regardez sur la carte, le reste, on verra ce qu'ils en feront. Ils s'arrangeront avec leurs voisins polonais, slovaques et hongrois, mais l'Ukraine sera un petit pays. Alors ça, c'est la partie la plus difficile de l'opération, mais parce que ça sera très difficile à présenter à l'opinion internationale. Alors comment les États-Unis, qui voulaient donc détruire la Russie, en sont à laisser tomber ce pauvre pays réduit à très peu de choses, mais il est réduit à la population qui est vraiment représentée par ce gouvernement, c'est-à-dire les régions plus nazies, plus antisémites, plus anti-russes, etc., elles habitent toutes dans l'ouest de l'Ukraine. Et donc, effectivement, si cette partie-là est simplement neutralisée pour la Russie, c'est bien assez. Neutralisée, un tout petit État dont se méfieront les Polonais, les Hongrois, les Slovaques, les Roumains, tout le monde. Ben, ils se débrouilleront avec leurs voisins. Et en attendant, la Russie aura fait ce qu'on appelle une zone tampon. Ce sera protégé de toutes les agressions extérieures. On verra. C'est ça qui est en cours. Dernière chose. Alors, je vous ai parlé. Non, je regarde l'heure tranquillement. On va passer un petit peu de musique. Oui, on va parler du Conseil de sécurité de l'ONU. Oui.
Laquelle de musique, Bernard ?
Alors, la deuxième, je crois, qui est un petit peu longue, mais qu'est-ce que j'ai mis ?
Il y a l'hymne des partisans yougoslaves ?
Oui.
Celle-là ?
Oui. D'accord. Ouais. Non, parler du Conseil de sécurité de l'ONU. C'était juste pour mettre une chanson dans l'oreille, non, et pour rappeler que la Yougoslavie est le seul pays d'Europe qui s'est libéré seul de l'invasion nazie. D'où l'intérêt, dont le courage et le salut que j'adresse aux partisans.
C'est vraiment méditerranéen comme
voie. Oui, on sent, hein, oui, tout à fait, on sent bien. Voilà. Et on voulait terminer pour parler des derniers développements sur la Gaza et puis surtout au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors il faut se souvenir qu'à la fin de l'année dernière, les États-Unis, après avoir fait des vétos à toutes les autres... à tous les autres projets de résolution venant des uns ou des autres qui demandaient
depuis
l'arrêt.
Depuis 75 ans, il fait des vétos.
Voilà. Mais là, la semaine d'avant, on avait... Enfin, depuis qu'il y a eu des résolutions sur la question d'arrêter immédiatement le cessez-le-feu à Gaza, les États-Unis, jusqu'à la semaine dernière, avaient toujours dit non. Donc, veto. Et ils s'étaient rendus compte que la position devenait de plus en plus intenable, c'est-à-dire dire on soutient ce que le monde entier voit. Ça devenait même difficile par rapport à l'opinion des États-Unis en allée électorale. Je rappelle que M. Biden voudrait se présenter comme le moins brutal que Trump. Hein. Donc il faut quand même qu'il fasse des espèces de gestes donnant des allures d'humanité. Et donc ils avaient trouvé ce biais de proposer une résolution. Ça, c'était donc, le vendredi dernier, une résolution qui, en fait, disait qu'il regrettait beaucoup ce qui se passait à Gaza, mais il ne demandait pas de cesser le feu. Donc, c'est une espèce de résolution à double entrée. Donc, on peut dire aux gens dans la rue qui disent au Biden, enfin aux démocrates qui font campagne, on peut dire, regardez, on a dit que c'était pas bien. Oui, on a compris que c'était pas bien. Tout le monde a compris, c'est pas besoin de nous expliquer, tu vois. Mais on ne demande rien à Israël, parce que, sous-entendu, on peut rien lui demander. Donc, il sentait bien que c'était un moment délicat. Alors, cette résolution n'était pas passée. Et donc, on est revenu sur le dossier une nouvelle fois ce lundi, donc hier très précisément.
Il y avait la pression internationale quand même qui était très importante.
Ah oui, elle est forte.
Voilà. Elle était forte. Alors, et ça fait que les États-Unis, soi-disant, c'est la plus grande démocratie au monde.
Voilà, on a toujours ce discours-là à vendre.
Exactement. Ils ont voulu quand même faire un petit pas marche arrière.
C'est ça, il y a ça. Non, mais il y a ça. Et puis le contexte électoral où, effectivement, Biden ne peut pas dire « à mort les Gazaouis ». Il ne peut pas, dans sa campagne électorale, il ne peut pas dire ça. Bon, même si...
Et puis il a perdu des États, je crois.
Voilà, oui, tout à fait. Il a perdu, oui, parce qu'il y a des gens qui continuent à voter, mais pour des opposants démocrates.
Ouais.
Donc, ils sont contre la politique de Biden et de Netanyahou, a fortiori. Donc, effectivement, il y a un problème. Alors, ce qui s'est passé, donc, lundi, c'est très important, c'est qu'en fait, c'est l'Algérie. Alors, il y a, vous savez, dans les 15 membres du Conseil de sécurité, il y a les 10 membres non permanents qui tournent tous les mois, et puis il y a les 5 permanents. Ouais. Et donc, ce mois-ci, c'était l'Algérie qui fait partie des 10 non permanents, qui était à la tête du Conseil de sécurité, et donc qui a proposé cette résolution avec un cessez-le-feu immédiat.
Voilà.
Bon. Cette résolution est passée à la majorité des 14-15e, avec une abstention. Alors les États-Unis ont trouvé malin de s'abstenir.
Et puis un petit pays, là, je ne me rappelle plus aussi.
Ah, c'est
un tout petit pays.
Eswatini, je crois. Ouais. C'est un pays, c'est un ancien Bantoustan.
Ouais.
C'est le nouveau nom d'un des deux Bantoustans sud-africains.
Ouais.
Voilà. Et donc, on arrivait à ce résultat. Et le résultat, alors, qu'est-ce que va faire Israël par rapport à ça? Et que va faire le Conseil de sécurité? Et quelle capacité l'ONU a? Alors, l'ONU pourrait sanctionner en disant une résolution très claire, à laquelle il n'y a pas eu de veto, donc elle doit s'appliquer. Elle doit s'appliquer. Comment on fait pour l'appliquer? Et comment on fait surtout si Israël ne l'applique pas? Et donc là, on ouvrirait la porte à toute une série de sanctions dont la mécanique est connue, j'allais dire. On sait ce que c'est, les sanctions financières, ne plus livrer d'armes. Enfin, il y a des tas de sanctions possibles. Est-ce qu'on va en arriver là? Je ne suis pas sûr, parce que j'ai lu... Alors chacun des votants s'est exprimé avant le vote. Et la position d'Israël a été nickel. Il a dit il faut qu'il y ait en même temps libération immédiate de tous les otages. Et comme ça, il y a cessé le feu immédiat.
Même, il a répété encore en disant que les Gazaouis, tout ça, ce sont des bêtes à tête humaine. Il l'a répété.
Il l'a dit à l'ONU.
Oui, oui,
voilà,
à l'ONU.
Bon, voilà. Donc, voilà, ils aggravent leur cas.
Ouais,
ils aggravent leur cas. Et donc, ce qui va se passer... Alors, je rappelle que la question des otages est une question simplifiée par le côté sioniste. C'est-à-dire, on ne parle que des otages, c'est-à-dire des prisonniers israéliens qui sont en ce moment gardés par les Palestiniens. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Mais on n'appelle pas du même nom les milliers de prisonniers palestiniens dont la grande majorité sont seulement des détenus arbitraire, c'est-à-dire que c'est les gens qui ont été enlevés chez eux ou pris dans la rue et qui ne sont...
Et même comme... des hommes politiques oui, de haut niveau.
Voilà. Bon. Mais qui ne sont coupables de rien, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de procès, ils peuvent rester 25 ans en prison, puis de toute façon c'est un internement administratif. Ce n'est pas un emprisonnement à la suite d'une décision de justice. Alors, la grande démocratie du bord de la Méditerranée orientale, ce n'est pas très sérieux quand on a des milliers d'internés administratifs, de gens qu'on a ramassés dans la rue et qu'on garde aussi longtemps qu'on a envie de les garder. Quelquefois, en les torturant pendant, il y en a qui en meurent, etc. C'est ça. Donc, s'il n'y a pas équilibre, alors, il y a déséquilibre dans le vocabulaire. C'est-à-dire, on met pas sur le même plan otage. Otage, c'est très, très vilain. Il ne faut jamais prendre d'otage. Et on ne met pas le fait qu'il y a des milliers de détenus administratifs arbitraires, sans jugement, sans cause, qui sont dans les prisons israéliennes. C'est là qu'est l'égalité. Ce n'est pas plus contestable d'un côté que de l'autre. Mais on ne met pas le même mot. Ça, ça fait partie de la formation journalistique. D'un côté,
je pense que les négociations ne sont pas encore arrêtées, que là,
non,
il
ça
faut
peut
discuter de ce problème,
ben
des
voilà.
échanges.
Voilà, parce qu'effectivement, à la rime, que les Palestiniens libèrent un certain nombre de ces prisonniers-là qu'ils ont fait, eux, donc, le 7 octobre, c'est possible. Mais après, il faut voir combien les autres lâchent de prisonniers qui sont là sans aucune raison, si ce n'est des raisons politiques, parce que de toute façon... Un Palestinien, ça doit se taire et obéir. Bon, c'est la seule raison pour laquelle ils sont en prison. Bon, ça, à ce moment-là, je sais les Palestiniens suffisamment finaux pour dire, ben voilà, la liste, c'est ci, ça, ça, ça et ça et tout. Qu'est-ce que vous avez à reprocher ce monsieur-là? Vous l'avez pris dans la rue parce qu'il avait un lance-pierre. Allez, ça, c'est un délit, c'est passible de 15 ans de prison, c'est pas très sérieux. Vous êtes une démocratie, allez, prouvez-le. Donc on en est là, donc c'est pas fait, donc je pense qu'Israël va freiner des quatre pieds comme il sait le faire, et j'attends, j'aimerais bien, alors vous savez que, ah oui, je finis là-dessus, Monsieur Guterres est venu constater lui-même, donc sous escorte, enfin il avait ses gardes du corps, oui. Heureusement qu'il les a, il est venu constater devant Rafah, il n'est pas rentré dans Gaza, il est venu constater devant Rafah que les Israéliens, que le gouvernement sioniste ne laissait pas rentrer l'aide humanitaire. Il l'a vu de ses yeux, dénoncé. Ouais. Il est venu voir pour être sûr, il a dit « mais je ne veux pas rêver, on me dit que l'aide humanitaire elle est là, il y a des centaines de camions où la nourriture est en train de pourrir, etc. qui sont là, c'est les sionistes qui ne laissent pas la nourriture rentrer. » C'est tout à fait clair. Bon. Et donc...
C'est un crime de guerre, oui, c'est un génocide.
Oui, c'est, ouais. Voilà, tout est caractérisé. Alors, ouais. J'attends le moment. Alors, ça ne sera pas la semaine prochaine, on en parlera. Mais la semaine prochaine, la Cour internationale de justice se réunit pour instruire la plainte du Nicaragua contre l'Allemagne. Je rappelle que l'Allemagne a soutenu Israël dans son opération guerrière. Contre toute attente, enfin, c'est vraiment discutable, mais que le Nicaragua, petit pays qui a beaucoup souffert des visées et des pratiques de l'impérialisme voisin états-unien, a eu le courage, tout seul, tout petit qu'il est, de porter plainte contre la grosse Allemagne pour dire « vous avez tort de soutenir le régime ». Ouais. Alors ça, ce sera l'actualité de la semaine prochaine à la CIJ.
Et surtout, la semaine prochaine, on parlera aussi de l'avenir de Netanyahou, qu'est-ce qu'il va devenir?
Voilà, effectivement, on sent bien qu'il y a au sein de la direction israélienne des tensions entre les jusqu'au boutistes. Il y en a, et on les connaît, ils se sont exprimés, ils sont organisés, il n'y a pas de souci, ils ont des soutiens, on sait aussi où ils sont. Mais une partie de l'opinion qui se demande quel est l'avenir d'Israël, parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui devient nouveau. Et c'est ça qui n'aurait jamais eu lieu sans l'opération du 7 octobre, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui en Israël des gens intelligents, raisonnés, qui ne sont pas des brutes, qui se disent est-ce qu'on nous acceptera encore, nous, citoyens israéliens, sur ce sol, après tout ce qu'on y aura fait? Et c'est une bonne question, c'est une question humaine, simple, une question d'empathie. Après tout ce qu'on leur a fait, peut-être ils nous voudront du mal. Mais oui, évidemment, ils pourront vouloir. Est-ce que même, je ne pense même pas que ça, ils auront la grandeur de vue de dire... rentrez chez vous, laissez-nous vivre tranquille, on est chez nous, hein, vous pouvez partir, on ne va même pas vous liquider au passage. C'est même pas ça qu'il y a dans la tête des Palestiniens. Parce que les Palestiniens, à ce niveau-là, sont à des niveaux d'humanité qui est égal à leur niveau de souffrance. c'est-à-dire énorme. C'est là-dessus que je voudrais conclure. Merci Roselyne, à la semaine prochaine.
Merci Roselyne.